Oui, Seigneur, quelle grâce que ta délivrance, que ta bienveillance, et de ce désir de nos cœurs que de t'écouter. Merci, parce que s'il y a une personne que l'on peut écouter, c'est toi, Seigneur, et nous voulons le faire maintenant. Merci pour ta parole, parce qu'elle n'est pas ordinaire. Elle parle au cœur. Elle s'est pénétrée au plus profond de notre être. Merci parce que tu l'as voulu ainsi. Et Seigneur, qu'elle fasse son œuvre. Dans le nom de Jésus, amen.
Amen.
Alors, je ne sais pas si vous aimez suivre les actualités. Souvent dans les actualités, il y a beaucoup de la politique qui tient une place importante. Et nos politiciens, ils aiment dire des petites phrases. Petites phrases par-ci. Alors, elles servent surtout à se faire remarquer, petites phrases par-là. Mais parfois, ils disent de grandes phrases. Ça arrive, je trouve, rarement. Mais il y en a une qui est restée célèbre, qui a été prononcée par le président Chirac lors du 4e sommet de la Terre en 2002. C'était il y a longtemps. Longtemps. Il avait dit par rapport au problème du climat, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Et on sort maintenant de la COP29. Et cette phrase est toujours d'actualité, vous le savez. La sagesse des hommes préfère, voit plus urgent la fabrication de bombes en plus grand nombre que de trouver des solutions pour les pays qui ont fait face à la montée du niveau des océans. La Bible, elle, est remplie de grandes phrases. Elles ont une portée universelle et une portée personnelle. Les problèmes qu'elles pointent du doigt sont de la plus grande importance, et l'échec de la COP29 n'est qu'une illustration des problèmes qu'elle soulève, mais elle amène aussi, en désignant les problèmes, la solution. Ce sont des solutions pertinentes, ce sont des solutions proposées, mais comme bien souvent, comme la phrase de M. Chirac, elles restent sans effet, ne sont pas entendues. Alors ce matin, nous allons écouter trois phrases qui sont importantes, qui sont de grandes phrases qu'on trouve dans la Bible. Les trois sont en relation avec le baptême auquel nous allons assister tout à l'heure. La première se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 23 et 24. Je l'ai appelé « Hier, le salut ». Hier, le salut. Voici ce que nous lisons. Tous les humains, dans le contexte, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, il y a le petit mot « en effet ». En effet, Paul vient de faire la démonstration que tous les hommes sont pécheurs. Que ce soit des personnes religieuses, que ce soit des personnes irreligieuses, tout le monde est dans le même sac. Ont péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Il y a plusieurs façons de le définir. Ce que je vous propose, c'est un état de rébellion où l'homme a le désir de prendre la place de Dieu. L'homme qui veut prendre la place de Dieu. Et dans les faits, il désobéit à la loi de Dieu. Cet péché, c'est aussi accomplir le mal que l'on sait être le mal. Accomplir ce que l'on sait être le mal, c'est pécher. Désobéir à la foi de Dieu. Vouloir prendre sa place. Mais qui est Dieu ? Dieu, c'est le Créateur. Le Créateur, le législateur de l'univers, celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est vivant, celui qui donne la vie, celui qui se présente comme une personne. Dans notre phrase, il y a « Tous les humains ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » J'ai deux images pour illustrer la façon dont les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Imaginez être Isis Rinner. C'est la fille de Teddy Riner, le judoka le plus titré au monde, le meilleur, le plus grand, le plus fort. Est-ce qu'on peut imaginer l'enfant de Teddy Riner, se faire harceler dans la cour de récréation, comme une moins que rien? Ce n'est pas imaginable, et pourtant c'est la situation des hommes privés de la gloire de Dieu. Ou être un téléphone sans carte SIM. Il fonctionne, mais il lui manque l'essentiel. Être privé de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Quelque chose d'essentiel. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés. C'est un langage juridique. C'est ne plus avoir de charge, être blanchi, être innocenté. Et donc ici, il s'agit du pécheur coupable. Le pécheur coupable, être reconnu juste. Comment cela est-il possible ? Par sa grâce, la grâce de Dieu. C'est être au bénéfice d'une bonté qui est imméritée. Et Jésus-Christ, qui est-il ? Le Messie de Dieu, celui qui a l'onction, celui qui a la faveur de Dieu, sans défaut, sans péché aucun. Le Fils de Dieu de toute éternité s'est incarné comme un vrai homme pour la rédemption de l'humanité. Vous et moi inclus. Et il y a un mot rédemption. C'est le rachat d'une personne avec tout son passif. Je me permets une illustration. Est-ce que vous connaissez l'humoriste Pierre Palmade ? Vous savez qu'il a été condamné à 5 ans de prison, donc 2 ans ferme, parce qu'il avait fait il a commis un grave accident de la circulation. Il a percuté avec sa voiture sous l'emprise de stupéfiants après 3 journées complètes passées dans la débauche. Il a percuté et une maman qui était là a perdu son bébé. Imaginez que la famille décide de lui pardonner, non seulement cela, elle décide également de payer les frais de justice, non seulement cela, mais il y a quelqu'un qui se propose pour prendre la place de Pierre Palmade et exécuter la peine de prison. C'est cela, être l'objet d'une rédemption. Dieu est celui qui veut prendre la place du coupable. Lui qui est celui dont on veut prendre la place. Celui à qui on détruit ce qui lui appartient. Son Fils bien-aimé est venu, il a versé son sang pour nous racheter de la condamnation du péché. Et le prix est suffisant pour le rachat de quiconque. Quiconque. La résurrection de Jésus prouve que cela est vrai. Le salut a été accompli à la croix de Golgotha. Il y a 2000 ans, c'était hier. Tous les hommes sont péchés. Nous avons tous un problème avec le péché. Et quelle réponse allons-nous donner à Dieu ? Est-ce que nous allons croire dans son Fils Jésus-Christ, ou est-ce que nous allons continuer à fonctionner dans le péché? Et ça, pour sa part, a cru il a saisi avec reconnaissance cette offre de rachat, cette offre de rédemption. Et le plongeon dans l'eau tout à l'heure va représenter sa purification par rapport à toutes ses fautes passées. Ce sera un symbole. Ça va représenter aussi son obéissance à Jésus-Christ, d'avoir pris celui qui l'a sauvé comme maître et comme seigneur de sa vie, comme une juste reconnaissance. Donc quelqu'un dira, il n'y a rien à faire pour avoir le salut, on peut pécher autant qu'on veut, Dieu pardonne toujours, est-ce possible? C'est notre deuxième phrase, un petit peu plus loin dans le lettre aux Romains. Romains 6, 3, 4 et le verset 11. Aujourd'hui, le salut. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Ou, autrement traduit, nous marchions à nouveauté de vie. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, nous avons été baptisés. Que veut dire le mot baptisé? Dans notre contexte judéo-chrétien, c'est un mot qui vient du christianisme et qui signifie le rite à laquelle nous allons assister, procéder, participer tout à l'heure. Mais dans le texte grec, c'est le mot d'usage courant qui signifie plonger. Être baptisé, c'est être plongé. Et que veut dire en Jésus-Christ? En Jésus-Christ. Baptisé, plongé en Jésus-Christ. J'ai une image pour illustrer ça. Ça, c'est du Andy Fly. C'est ce qui permet à un handicapé de faire... non seulement pas un baptême de l'air, mais un baptême de parachutisme. Il est complètement incapable de faire quoi que ce soit, mais attaché à un parachutiste professionnel, il va pouvoir faire l'expérience du saut en parachute. Et c'est ainsi que Dieu nous plonge en Jésus-Christ. Il nous attache à lui, il nous unit à Jésus-Christ. Et avec lui, nous sommes plongés dans la mort. Et avec lui, nous ressuscitons. Quand Esosnam a reçu le pardon de Dieu, il a été plongé en Christ. Avec Jésus-Christ, il est mort sur la croix par rapport à son ancienne vie. Avec Jésus-Christ, il est ressuscité pour une vie nouvelle. Ce sont des réalités spirituelles. C'est ainsi que Dieu voit les choses et qu'il nous demande de les voir. Le croyant Jésus n'est plus obligé de pécher parce qu'il est mort. Il est mort par rapport à son ancienne vie. Et vous savez, un mort, ça ne réagit pas quand on le sollicite. L'ensevelissement dans l'eau du baptême, quand Essence va disparaître au fond de l'eau, cela représente la mort en Christ, cela représente l'ensevelissement. Et lorsqu'il va se relever de l'eau, ça représente la résurrection. Aujourd'hui, le salut. Donc, peut-être vous direz, mais quand on devient pécheur, chrétien, alors on ne pêche plus. Est-ce qu'on devient parfait? Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il s'agit de quelque chose que l'on saisit par la foi et que l'on expérimente dans sa vie, jour après jour. Voici ma troisième phrase. Demain, le salut. Romains chapitre 6, versets 22 à 23. Maintenant que vous avez été libéré du péché, que vous êtes devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Esclave de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il y a trois personnes que nous pouvons servir. Nous pouvons servir Dieu, nous pouvons servir notre prochain et nous pouvons servir nous-mêmes. On ne peut pas se servir soi-même sans faire du tort à son prochain. C'est mon expérience. Et on ne peut pas servir correctement notre prochain. On ne peut servir correctement notre prochain qu'en servant Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, a dit Jésus. Et on peut lui faire confiance par rapport à ce qu'il a vécu, que c'est quelque chose de vrai. Être esclave de Dieu, servir Dieu, est la meilleure des choses qui puisse arriver à un être humain. Parce qu'avec ça, il a tout. La sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. La sainteté, c'est la proximité avec Dieu. La proximité avec Dieu. Et la vie éternelle. J'aime bien cette façon de la définir. La vie éternelle, c'est la vie avec Dieu pour toujours. La vie avec Dieu pour toujours. Et pourtant, ici-bas, le péché reste attaché à la nature humaine. Comme les taches du léopard sont attachées à lui, à sa peau. Et tant que nous serons dans ce corps, nous serons des pécheurs, entourés d'autres pécheurs. Mais Dieu appelle le croyant à la sainteté. Dieu transforme le croyant à la ressemblance de Jésus par l'action de l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Car la finalité du croyant, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Le croyant avec sa nouvelle vie n'est pas chez lui sur la terre, au milieu du péché. Il y est un peu comme un immigré. Une personne qui est en transit vers où? En transit vers le ciel. Et le chemin est long et difficile. On connaît les difficultés des chemins de la migration. Le chemin est long et difficile aussi pour le croyant. Mais il avance petit à petit dans la sainteté. Et dans ce chemin, tu ne seras pas seul sur la route. Dieu te donne une église locale, là où tu te trouveras. Par la grâce de Dieu, tu en trouveras une. C'est le lieu où l'on s'encourage et où l'on s'entraîne dans cette marche. On s'encourage et on s'entraîne pour ressembler le plus tôt possible et le plus possible à Jésus. On s'encourage et on s'entraîne à être les témoins de Jésus. Car Dieu appelle encore ce matin à croire en Jésus. Et Dieu recherche des personnes qui soient des vitrines de Jésus-Christ, qui soient des personnes qui, à travers lesquelles on voit Jésus. Il a besoin de cela. On s'encourage, on s'entraide également en attendant le retour de ce Seigneur. Le baptême est donc aussi l'engagement du baptisé devant l'Église à entretenir une bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement. C'est une profession de foi. Et ce baptême est aussi la reconnaissance officielle par l'Église qu'ils ont un nouveau membre dont ils vont devoir prendre soin et lui aussi devra contribuer aux soins de ses frères et sœurs dans l'église locale et même peut-être au-delà. Trois petites phrases importantes donc. Tous les humains ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, et par ce baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui afin que Christ est ressuscité. Que comme Christ est ressuscité pour la gloire de Dieu, de même, nous menions une vie nouvelle. Et maintenant que vous avez été libérés du péché, que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté, pour fin, pour finalité, pour destination, la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.